Assaut. 101.7. La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
Bonjour et bienvenue à cette émission. Le 20 novembre 2022, à l'issue d'une campagne enlevante, vraiment enlevante, mettant aux prises trois candidats, Patrick Péloquin était élu maire de Sorel-Tracy. Il défaisait Corinna Bastiani et Jean Cournoyer avec 51% des suffrages, succédant ainsi à Serge Péloquin, destitué par la Cour supérieure. Il y a donc un an, hier, que Patrick Péloquin est maire. Il est mon invité pour un bilan de sa première année. Cette émission va prendre la forme d'une ligne ouverte, alors au cours de laquelle vous allez pouvoir poser à M. Péloquin vos propres questions. Il n'y aura pas que les miennes, il va y avoir les vôtres si vous contribuez un peu. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre ligne. Vous composez 450-743-2772 pour nous joindre. 450-743-2772. On revient après la pause.
Salut tout le monde, c'est Danny Turcotte. Nez rouge, 40 ans cette année. Et pour bien faire ma job de porte-parole, je lui ai organisé un gros party surprise. Vous êtes tous invités, soit pour être bénévole ou pour utiliser le service de raccompagnement. Fait que si vous n'êtes pas en état de chauffer ou que ça vous tente d'aider, juste à nous appeler au 1-866-DESJARDINS. L'invitation est lancée! Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
La bonne nouvelle économique. Une présentation de la Caisse Desjardins Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires.
L'entreprise maritime Groupe Océan annonce qu'elle rassemblera une partie des activités de sa filiale Travaux Maritimes Océan dans le parc industriel Ludger Simard de Sorel-Tracy d'ici la fin de l'année. Le regroupement de ces activités permettra de consolider la présence de Groupe Océan à Sorel-Tracy, où l'entreprise dispose déjà d'installations de remorquage portuaire. Travaux Maritimes Océan réunira en un même lieu ses activités d'entretien, de réparation, de déconstruction, d'entreposage et de répartition de barges pour l'ensemble du Québec. Grâce à ses nombreux quais et à sa position géographique stratégique, le parc industriel Ludger-Simard voit ainsi renaître des activités navales sur le site autrefois exploité par Marine Industrie.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
Envie de changement pour le temps des fêtes? Profitez d'une occasion en or pour économiser gros chez Meubles André Beaulieu. Épargnez de 20 à 50 sur les meubles jusqu'au 30 novembre. C'est le moment parfait pour mettre à jour le décor de votre cuisine, votre salon ou votre chambre à coucher. Faites vite pour une livraison avant le 31 décembre. Passez en magasin ou visitez le meublebeaulieu.ca ainsi que la page Facebook pour découvrir les promotions et une vaste sélection de mobilier. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Meubles André Beaulieu, 391 Boulevard Poliquin.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Alors, je le disais, nous consacrons cette émission au premier anniversaire de l'élection de Patrick Péloquin à la mairie de Sorel-Tracy. Il est des nôtres. On va l'interroger sur le bilan de cette première année. Vous pouvez lui poser vos propres questions. Vous réservez pour ça votre ligne. Vous composez 450-743-2772. Je l'étudie, 450-743-2772. On a déjà un appel, mais je vais poser une première question avant de passer aux appels. Monsieur Péloquin, bonjour d'abord. Monsieur
bonjour
Péloquin.
Sylvain.
Bon, quel souvenir conservez-vous du 20 novembre 2022? Est-ce que vous vous rappelez l'euphorie du moment?
Ça je, fait quelque chose? Je me rappelle chaque seconde. Ouais. Chaque seconde, c'était quand même une longue campagne, parce que la campagne s'était déjà annoncée au printemps suite justement à la décision de la Commission municipale du Québec. Et déjà d'annoncer de se lancer justement dans un défi comme celui-là, c'est quand même quelque chose. Pendant l'été, travailler, rencontrer des gens, aller sur le terrain, monter une équipe de campagne, c'est quand même quelque chose de très grand. Et arriver au soir de l'élection, bien sûr, c'est comme l'accomplissement de tout ce travail qui a été fait pendant la campagne. Beaucoup d'euphorie, beaucoup de plaisir.
Pendant la campagne, votre degré d'optimisme je ne l'ai jamais vu fléchir.
Jamais.
Et pourtant, il est arrivé un joueur, Jean Cournoyer, une arrivée qui a excité beaucoup, beaucoup de monde. Mm-hmm. Il s'est fait très, très, très présent, très vocal. Mm-hmm. Vous auriez pu vous dire, « Oh, tabarouette, attends un peu, là, qu'est-ce qui va m'arriver? » Ouais. Non, vous demeuriez convaincu que...
Tout à fait. Tout à fait, parce que dans le fond, c'est le travail qui est garant du succès. Quand on travaille fort sur le terrain, c'est comme ça qu'on réussit à obtenir ce qu'on veut. Puis c'est quelque chose que j'applique dans ma vie de tous les jours. C'est ce que j'applique depuis que je suis maire de la ville. Et pendant la campagne, nous, on avait fait quand même 12 000 appels pendant la campagne. Là. On savait là, exactement vers où les tendances allaient. C'est ce qui exprime. Dans le fond, c'est comme ça qu'on sentait très en confiance pour la campagne.
Nos trois lignes téléphoniques sont déjà réservées. Je vais y aller, là. Je vais y aller oui, bientôt allons-y. Au téléphone. Là. Mais avant. Vous avez été conseiller avant d'être maire. Oui. Conseiller dès 2013. Seul candidat élu sous la bannière du parti d'aujourd'hui, oui. de Mme Bastiani.
Oui.
Est-ce que vous estimez que vos fonctions de conseiller vous ont bien préparé à occuper celle de maire? C'est un passage quasi obligé, un passage très, très utile.
Tout à fait. Dès le jour 1, je connaissais tout l'appareil municipal, je connaissais le fonctionnement, je connaissais comment se déroulent les séances du conseil, je connaissais le décorum, la façon de travailler, les intervenants, les joueurs. Donc, j'étais complètement fonctionnel dès le jour 1 de mon arrivée en poste.
Ma dernière question, parce qu'elle a un lien là, avant D'accord. de passer aux appels. Le parti d'aujourd'hui a été sabordé en 2015, alors que vous en étiez le chef intérimaire, parce que le chef n'avait pas été élu, Mme Bastiani. Vous pensez qu'il n'y a pas de place pour des partis politiques municipaux dans une ville de la taille de la nôtre ou...
C'est très difficile parce que un parti politique, l'avantage que ça a, c'est d'établir des plateformes électorales et de s'assurer, advenant que le parti est majoritaire, d'accomplir ce qui est là parce qu'il y a une majorité de conseillers qui votent. Tandis que moi, en campagne électorale, en étant indépendant, je peux bien dire « voici mes engagements ». Si le conseil municipal ne me suit pas, il n'y aura aucun de ces engagements-là qui va arriver. Il y a un avantage à être un parti politique, mais il y a aussi un avantage à travailler en consensus avec des conseillers indépendants. Ça permet justement une grande cohésion dans le travail, dans les approches, d'être consensuel, d'être à l'écoute des gens et d'essayer d'arriver dans une situation de compromis et non pas une position idéaliste.
OK. Hey, on va aller tout de suite du côté du téléphone, Patrick. Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Dominique Gosselin, d'Action Logement, Pierre de Sorel.
Allez-y, M. Gosselin.
Oui, ben, je ne pensais pas d'être le premier à poser la question. Fait que je vais commencer par le négatif en partant. En fait, en tant que comité logement, durant la course à la mairie, on a entendu beaucoup le mot « logement » revenir. Puis... présentement, on n'a pas eu vraiment beaucoup de développement concernant du logement social et non pas abordable, ce qui est deux choses différentes, là. Mais du côté du logement social, il n'y a rien qui était encore mis en place pour aider nos gens à faible revenu. Quand on parle de logement social, ma question, ce serait quoi pour M. le maire, un logement abordable? Puis, du côté du logement social, qu'est-ce qui va être fait là, éventuellement pour... allié à ce manque dans notre région.
Ça, c'est une question au piège, Patrick Péloquin. C'est quoi un logement abordable? Je me souviens, je ne sais plus si c'est Philippe Couillard ou François Legault ouais. Ça a fait... Non, alors, en fait, faites attention à votre réponse.
Je veux pas contredire M. Gosselin, mais il y a des choses qui ont été faites. C'est juste que au niveau du logement social, le logement social, il faut travailler avec les experts dans le domaine. Les experts du domaine du logement social, c'est l'Office d'habitation Pierre de Sorel. Donc c'est eux qui travaillent sur des projets. On les accompagne. On se rappellera peut-être la saga du terrain avec la Société d'agriculture en arrière du Colisée. Donc c'est parce qu'on avait identifié ce terrain-là pour qu'ils puissent soumettre un projet. Mais finalement, on regarde d'autres terrains parce que le projet n'a pas été accepté. Donc, on regarde pour d'autres terrains, mais on travaille étroitement avec l'Office d'habitation justement pour construire de grands projets au niveau de l'habitation sociale. C'est très important, ça nous en prend plus sur le territoire. Pour ce qui est du logement abordable, bon, il y a plusieurs définitions du logement abordable. Normalement, logement abordable, là, c'est il y a 70%, là, je ne me rappelle plus la définition exacte, mais c'est comme du salaire, là, qu'il faut pas que ça dépasse un certain pourcentage de la personne qui loue le loyer. Justement, lundi dernier, on a accordé, dans le fond, on a appuyé la création de Accès Habitation Sorel-Tracy, qui est, parce qu'on a fait nos devoirs, on est allé voir dans d'autres villes quelles sont les initiatives au niveau du logement abordable. On est allé voir à Drummondville, il y a Innov Drummond là-bas, on a vu comment ils fonctionnent et on réplique ça ici avec Accès Habitation Sorel-Tracy. La direction générale va être assurée par la même directrice générale de l'Office d'habitation avec un autre CA complètement indépendant, sans politicien, là, vraiment un CA qui est vraiment là-dessus. Et eux, ce qu'ils vont faire, cet organisme-là va avoir une mise de fonds qui est fournie par la ville de 25 000 $ qui va leur permettre d'aller acheter des bâtiments faisant des emprunts hypothécaires, acheter des bâtiments existants, donc des bâtiments qui sont parfois insalubres, aller faire des rénovations dans ces bâtiments-là puisqu'ils seront propriétaires et ensuite louer les logements à prix abordable selon le revenu des locataires.
Avez-vous une réaction, M. Gosselin, ou bien une sous-question?
Ouais,
ou bien les deux?
C'est quand même bien parce qu'ils ont pris la peine d'écouter ce que j'avais proposé lors d'une rencontre, c'est bien. Mais ça n'a pas répondu à ma question. Ça serait combien à peu près un logement abordable? Juste pour se donner une idée, parce que...
Le logement abordable, ben, il va être en fonction des revenus de la personne qui va aller y vivre. Donc, on parle de gens qui ne sont pas nécessairement dans le besoin d'un logement social, donc des gens qui ont un revenu, mais on veut... Et là, évidemment, cette gestion-là du logement abordable va être gérée par Accès Habitation Sorel-Tracy, ne sera pas gérée par la ville de Sorel-Tracy, parce qu'on veut une indépendance de l'organisme comparativement à la ville, mais c'est un organisme qui va être partenaire. Fait que ça va vraiment être en fonction du revenu des locataires.
Mais Dominique Gosselin, j'essaie de comprendre votre question. Est-ce que vous auriez aimé qu'il dise combien devrait coûter à quelqu'un un 4,5?
Ben, c'est sûr que ça serait plus clair, mais c'est parce que c'est ça, le mot abordable est comme un peu utilisé à plusieurs sauces, fait que c'est jamais clair tant que ça va être quoi un logement abordable.
L'abordabilité a plusieurs définitions et plusieurs prix.
Effectivement. Et c'est pour ça que je vais laisser les experts définir quel sera le niveau de l'abordabilité d'un logement.
Et merci beaucoup, Dominique Gosselin.
Merci.
Merci. On va prendre un autre appel tout de suite. Oui, bonjour.
Bonjour, moi, c'est Louise Pelletier, historienne recherchiste.
Oui, Mme Pelletier.
Moi, j'ai une question pour M. le maire.
Oui, bonjour.
Quels sont vos projets futurs pour la conservation et la sauvegarde de notre patrimoine sorellois, surtout le patrimoine bâti déjà existant?
Ça, Patrick Péloquin, c'est un sujet qui vous intéresse, en tout cas qui vous intéressait quand vous n'étiez pas maire, il continue de vous intéresser.
Énormément. Mais Mme Pelletier fait partie du comité du patrimoine de la ville de Sorel-Tracy, initiative qu'on a mise en place dans les dernières années, qui continue d'être très active. Donc, évidemment, on va regarder les recommandations qui nous viennent du comité du patrimoine, mais c'est sûr et certain qu'au niveau du patrimoine bâti, on a déjà des règlements qui encadrent ça pour éviter que ça soit défiguré là, au niveau de la ville. Puis on regarde également des initiatives pour essayer de sauvegarder des bâtiments qui sont construits existants. Puis pour ne pas le nommer, le Marine Cabaret, on le regarde attentivement. On essaie de voir quel projet qui pourrait avoir lieu là-dedans. On travaille avec nos partenaires du développement économique, la Société des parcs. Là, on regarde, on analyse, puis on recherche s'il n'y a pas des partenaires privés qui seraient intéressés. Mais une chose qui est sûre, c'est que nous sommes on est très, très, très attentifs à ça et on veut préserver notre patrimoine bâti. C'est très important.
Louise, un commentaire, une autre question?
Une autre question. Selon vous, est-ce que les lois protègent adéquatement notre patrimoine?
On a plusieurs règlements qui empêchent justement la modification d'un bâtiment patrimonial. Et également, on a mis en place un comité de démolition, avant même que ce soit obligatoire par le gouvernement, on avait déjà mis ça en place. Donc, un comité de démolition qui empêcherait des tragédies comme l'ancien bureau de poste. Donc, ça ne pourra pas survenir dans la ville d'aujourd'hui de démolir un bâtiment. Il faut que la ville donne son assentiment avant de détruire quelque chose. Donc, ce règlement-là protège quand même du patrimoine bâti.
Merci beaucoup, Louise Pelletier. Je vais vous remercier parce qu'on a d'autres appels.
OK, merci, au revoir.
Merci, Louise. CJSO, bonjour.
Oui, bonjour. Mon nom est André Pepin. Je vais vous parler d'environnement. D'abord, je veux vous féliciter, M. Péloquin, ainsi que votre conseil là, pour la prise de position concernant le boisé du cimetière anglicain. Aujourd'hui, j'aimerais vous entendre sur les solutions que vous pouvez apporter, suggérer pour essayer de régler un gros problème. Qui est, donc vous avez cité d'ailleurs, qui est celui des eaux usées, lancées dans le fleuve par la ville de Sorel. Selon la Fondation Rivière, on compte plus de 1500 débordements dans l'année 2022. Là, on parle de plus de 6000 heures de déversement. On s'entend, là, déversement, débordement, surverse, ce sont tous des synonymes. Là, on parle vraiment là, de 1500 débordements par année. Alors, quelle est votre approche par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution?
Patrick Péloquin.
Bon, l'eau, là, c'est vraiment un très gros sujet d'actualité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On a adopté, bien que ça touche pas les déversements, là, une politique de l'eau, justement, par rapport à ça, par rapport à l'utilisation de l'eau dans la ville pour diminuer, éviter le gaspillage de l'eau potable. On travaille également pour les futurs aménagements à avoir plus de biophilie, c'est-à-dire qu'on fait attention justement à l'utilisation de l'eau, le recueillement de l'eau pour que ça aille dans la nature au lieu d'aller dans les canalisations de la ville. Et c'est sûr et certain qu'on a une très grande réflexion, une très grande étude par rapport aux eaux usées et le traitement des eaux usées. On a une régie d'assainissement des eaux. Ça se passe aussi là. On a des conseillers qui sont sur cette régie-là. Et effectivement, il y a une grande réflexion à avoir. On travaille étroitement avec le CTTEI, donc le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, pour le traitement des boues de la ville, justement pour éviter qu'il y ait un déversement de l'eau avec les boues de la ville dans les rivières. C'est important, c'est une préoccupation. Puis justement, la création du Bureau de l'environnement cette année nous permet d'analyser et d'avoir les meilleures solutions écologiques. Il faut préserver notre environnement, c'est important.
Est-ce que c'est une réponse qui vous convient, ça, M. Pépin?
Oui, absolument. En fait, j'imagine que cette réflexion-là va être suivie d'objectifs clairs, de plans aussi, à court, moyen et long terme. Parce que la ville de Sorel se situe là, dans la première centaine des 900 municipalités qui ont été plus ou moins surveillé ou en tout cas noté par Fondation Rivière. C'est sûr que le règlement de l'eau, là, peut paraître timide, mais oui, moins il y aura d'eau qui va se rendre à l'usine d'épuration, mieux ça sera. Je pense que c'est un excellent point, c'est un bon début. Alors, je vous encourage à poursuivre. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Merci, M. Pépin. Alors, toutes nos lignes sont désormais disponibles pour vos questions à vous. Alors, 450-743-2772. 450-743-2772. Au lancement de votre campagne à la mairie fin juin 2022, Patrick, vous avez appuyé très fort sur l'urgent besoin de rétablir la confiance de la population à l'égard du politique. Est-ce que vous estimez avoir posé depuis un an beaucoup de gestes propres à rétablir cette confiance-là?
Eh bien, l'idée de la confiance, c'est justement, c'est de dire on va travailler ensemble, on va travailler en équipe, on va travailler avec les intervenants, on va travailler avec tout le monde, on va être le plus transparent possible dans toutes nos interventions, dans toutes nos actions. On va faire ce qu'on dit, on va établir une vision, on va dire c'est là qu'on s'en va, puis on va agir en ce sens-là. Fait que ce que je peux dire, c'est que personnellement, je sens justement ce changement de culture à l'hôtel de ville tout d'abord. C'est un changement de culture là, de travailler ensemble en équipe et on le voit aussi avec les partenaires. Tu sais, d'avoir de l'audace puis de l'ambition, ça fédère tout le monde et ça fait que tout le monde met l'épaule à la roue et on sent ce momentum-là qui est installé et qu'on avance tous. Puis je veux pas dire un momentum pour moi, vraiment pas. C'est un momentum pour la ville et pour la région. Qu'on travaille ensemble en équipe, là, c'est des choses qui se sont jamais vues, là, qui ne sont pas vues depuis longtemps.
Ce qui ne veut pas dire que vous êtes toujours d'accord sur tout.
Mais non.
Rassurez-moi.
Mais non, on n'est pas d'accord sur tout. Là.
Alors, il y a un choc des idées à cette table-là.
Il y a toujours un choc des idées. L'idée, c'est d'arriver avec un consensus.
Mais ça se faisait du temps de Serge Péloquin, non? Vous applaudissiez vous-même à ça, vous l'avez fait à cette antenne.
Tout à fait.
J'essayais de vous faire parler un petit peu sur le maire Péloquin. Vous me disiez, il y en a des chocs des idées en comité permanent, mais ouais. Quand on revient, ben, on a fait consensus après avoir chacun mis un peu d'eau dans notre vin. Là.
Bien, évidemment, en fait, quand je parlais de transparence, c'est aussi ça. Dans mon rôle de maire, c'est une des grandes différences qui existe entre le rôle de maire et le rôle de conseiller, c'est que quand on est conseiller, habituellement, c'est une fois semaine qu'on a une rencontre formelle. Il y a du travail qui se fait en continu, là, bien sûr, avec les citoyens puis avec les services. Mais il y a une seule rencontre formelle, vraiment, avec le reste du conseil. Tandis que moi, le travail est en continu, en permanence, et on est sur plein de dossiers. Moi, quand j'arrive à la table du conseil, puis c'est le temps de discuter dans des ateliers de travail, moi, j'énumère tout ce que j'ai fait dans la semaine. Je partage toute l'information avec les conseillers et ça fait qu'on avance un peu plus à ce niveau-là.
Ça, vous diriez que c'est nouveau?
C'est nouveau.
C'est nouveau?
C'est nouveau, okay. Ça, oui.
Parfait. Ce qui n'est pas nouveau, c'est qu'on va s'interrompre pour une pause publicitaire. Profitez donc de ce moment, chers amis à la maison, là, pour réserver votre ligne téléphonique pour votre propre question à Patrick Péloquin, 450-743-2772. À tout de suite.
Meubles André Beaulieu fête ses 50 ans. Pour l'occasion, vous êtes invité à participer au concours de notre famille à la vôtre. Vous pourriez gagner un repas pour 8 personnes au restaurant Le Fougas, une valeur de 750 $. Participez jusqu'au 29 novembre en remplissant le formulaire en ligne à meublesbeaulieu.ca. De notre famille à la vôtre pour célébrer les 50 ans de Meubles André Beaulieu.
La ville de Saint-Joseph-de-Sorel vous invite à participer à la 10e édition de la Féerie des Lumières les 8 et 9 décembre prochains. Assistez au spectacle de RSVP. Yeah!
Son verre qui en reviendra, même si tout explose, je fais rien et sans
Vibes Band. Et les grands hurleurs. Venez vous amuser en famille. Jeux d'adresse sous le grand igloo, jeux vidéo, jeux gonflables, musée ambulant, feu extérieur et feu d'artifice. Food truck et bar sur place. L'accès au site, aux activités et aux spectacles sont gratuits. Découvrez toute la programmation sur feeriedeslumieres.ca. La Féerie des Lumières est une présentation de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, Desjardins, CJSO et Finkel Steel.
Merci.
Envie de changement pour le temps des fêtes? Profitez d'une occasion en or pour économiser gros chez Meubles André Beaulieu. Épargnez de 20 à 50 sur les meubles jusqu'au 30 novembre. C'est le moment parfait pour mettre à jour le décor de votre cuisine, votre salon ou votre chambre à coucher. Faites vite pour une livraison avant le 31 décembre. Passez en magasin ou visitez le meublesbeaulieu.ca ainsi que la page Facebook pour découvrir les promotions et une vaste sélection de mobilier. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Meubles André Beaulieu, 391 Boulevard Poliquin.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Alors, le 20 novembre 2022, à l'issue d'une campagne enlevante, mettant aux prises trois candidats, Patrick Péloquin était élu maire de Sorel-Tracy avec 51% des suffrages. Il y a donc eu un an hier que Patrick Péloquin est maire. Il est mon invité pour un bilan de cette première année. Et cette émission prend la forme d'une ligne ouverte au cours de laquelle vous pouvez poser à M. Péloquin vos propres questions. Vous pouvez réserver votre ligne au 450-743-2772, 450-743-2772. 7-2 ou encore 450-780-0101, 450-780-0101. Patrick Péloquin, je vous amène sur une autre motivation que vous avez exprimée pendant la campagne électorale. Vous avez dit beaucoup de choses pendant la campagne électorale,
oui.
Notamment redonner aux citoyens une prise sur le développement de leur milieu. Vous vous souvenez d'avoir dit ça?
Tout à fait.
Comment ça s'est concrétisé, ça, depuis un an?
L'idée, c'est de mobiliser la communauté dans les projets municipaux. Alors, depuis un an, une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a embauché quelqu'un pour la participation citoyenne. Donc, c'est Maude qui est venue ici faire plusieurs chroniques.
Maude Péloquin.
Maude Péloquin, effectivement.
Homonyme, mais pas parent.
Non, on n'a pas
ni
parent.
Ni avec vous, ni avec l'autre.
Non, Péloquin. Non. On est les Tremblés de Sorel-Tracy. Donc, voilà. Donc, et ça, c'était la première chose. Évidemment, là, avec les travaux centre-ville, on l'a affecté surtout à la communication avec les commerçants. Donc, vraiment avec le milieu. Parce que c'était l'urgence qu'on avait. Et par la suite, on a donc cette ce bureau de participation citoyenne-là qui va entrer en compte. On le fait également pour les travaux du Quai Richelieu. Il y a eu des rencontres avec, avec les gens. On le fait également dans l'élaboration de la planification stratégique de la ville. On a rencontré des partenaires, on a rencontré des citoyens pour faire notre grande planification stratégique qu'on est très fiers puis qui guide nos actions. Donc, les citoyens sont au cœur des consultations qu'on fait puis des orientations qu'on prend.
S'il est élu maire le 20 novembre, là, je cite mes nouvelles de la campagne électorale. Patrick, ça nous suit, ça.
Oui.
Patrick Péloquin entend impliquer les citoyens dans les orientations stratégiques. Vous nous parlez de la ville. Mais là, vous êtes allé pas mal plus loin en campagne électorale. Vous avez dit en créant un comité de consultation publique. Vous souvenez-vous de ça?
Comité de consultation publique, on veut. Ben, en fait, c'est dans le bureau de. En fait, il y a deux choses. Avec la participation citoyenne, c'en est une. Une autre qu'on va faire, c'est aussi avec l'environnement. Ce qu'on veut, c'est d'impliquer les gens dans les réflexions au niveau de l'environnement, au niveau des prises de décision de la ville. Ce comité-là, on a adopté le comité cet automne. On va lancer ces comités-là, ces commissions-là cet hiver. Donc, les citoyens vont être impliqués dans les prises de décision de la ville.
Ça va bien. On dirait que vos engagements prennent racine, oui. Là, prennent vie, prennent forme. C'était pas, puis je reviens à une discussion qu'on a eue antérieurement. Là, on parlait de la distinction entre se présenter à la chefferie d'un parti politique, arriver avec sa gang de candidats et se présenter candidat indépendant sans trop savoir si les autres sont sur la même longueur d'onde que nous. Alors là, vous auriez pu, en multipliant les engagements au cours de votre campagne électorale, vous retrouver les culottes à terre, je m'excuse, là, devant des conseillers qui disent « Bon, ça, là, ton comité est consultatif, là, mettez-le où je pense, puis telle autre affaire, pas d'accord. » Est-ce que vous aviez un peu sondé le terrain pour que ne se produise pas ça?
Ben oui, tout à fait. Et j'ai travaillé quand même avec le conseil en place. Je suis issu du conseil de ville. Je connaissais les orientations et justement un peu de tout le monde. Et je les partageais et je les partage encore. Donc, c'est un travail d'équipe. Et justement, quand moi, j'ai bâti la plateforme qui va me servir pour les élections, c'était issu des réflexions qu'on avait au conseil de ville. C'était pas étranger. C'était quelque chose qui était bien ancré, qu'on avait déjà identifié pour le futur de la ville. Donc, évidemment, ma plateforme électorale était ancrée dans les préoccupations municipales.
Non, je suis sûr que vous avez d'aussi bonnes questions que les miennes. Alors, 450-743-2772 à la maison. 450-743-2772, 450-780-0101, 450-780-0101. Dans le rayon de « on en dit des choses pendant une campagne électorale », une autre chose que vous avez dite. Il faut redonner aux employés municipaux la maîtrise sans ingérence de leur dossier. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça a voulu dire depuis un an que vous êtes maire?
Ça, quand je parlais tout à l'heure de changement de culture, ça, c'est primordial. Le rôle d'un maire, ce n'est pas le rôle d'un propriétaire d'entreprise qui peut intervenir auprès de ses employés sur n'importe quel sujet. Le maire a un conseil, tout d'abord, ça c'est très important. Le maire travaille avec son conseil et le maire et le conseil, ils ont un employé et cet employé-là, c'est le directeur général de la ville. Le directeur général de la ville, lui ensuite, il s'assure que les employés municipaux travaillent dans le sens des orientations qui sont fixées par le conseil. Donc, ce n'est pas au maire intervenir auprès d'un employé municipal. Le maire, ce qu'il fait, c'est qu'il fait rapport, il parle, il doit travailler étroitement avec son directeur général. En fait, c'est vraiment un grand, grand, grand travail d'équipe. Ça prend une complicité et il faut bien se comprendre. Et heureusement, moi et M. Fleury, on travaille très bien ensemble. Mais c'est lui qui va agir en fonction des orientations du maire et du conseil.
Alors qu'auparavant, parce que vous avez pas pris cet engagement-là sans toile de fond, le redonner aux employés municipaux la maîtrise sans ingérence de leur dossier, avant vous estimez qu'il y avait de l'ingérence. Le maire allait voir les employés passant par-dessus le directeur général.
Effectivement, et c'est ce qui faisait que souvent, il pouvait y avoir des problèmes à l'hôtel de ville. Et c'est pas étranger à ce qui est survenu dans la suite des choses. Là. Je veux pas nécessairement revenir sur tous les événements, mais quand il n'y a pas de confiance entre le maire et les employés de la ville, ça ne fonctionne pas. Et on peut pas débarquer dans les bureaux puis commencer à dire à tout le monde comment ça fonctionne. Une ville, c'est une entité, ça fonctionne, c'est vivant et ça prend une cohérence d'action et il faut connaître son rôle. Et en tant que maire, ce n'est pas le rôle du maire d'intervenir auprès des employés. Le maire intervient auprès du directeur général. Le directeur général, lui, s'occupe ensuite des employés.
Les relations de travail que oui. vous aviez la volonté d'assainir, mm-hmm. bon, ça a peut-être marché jusqu'à un certain point, mais j'ai pas l'impression que c'est ce à quoi on a assisté avec l'école bleue. J'ai pas l'impression que les relations sont plus saines depuis votre arrivée qu'elles l'étaient avant avec l'école bleue.
Quand on parle d'assainir les relations de travail, c'est de comprendre le rôle de chacun et de travailler en équipe dans l'atteinte de ces objectifs-là. Mais c'est sûr, en même temps, qu'il y a des obligations. Et dans le rôle de chacun, évidemment, en tant que maire, en tant que conseil, en tant que direction de la ville, c'est sûr qu'il y a des négociations à avoir quand on arrive dans un cadre de convention collective. Mais dans le cadre de la convention collective avec l'École bleue, c'est sûr que la vision a toujours été la même. Je peux répéter, mais c'était l'équité interne, l'équité externe, de la capacité de payer de la ville. Et ça, on a maintenu ça. Mais c'est pas moi qui ai négocié. Nous, on a donné le mandat, la vision, et c'est la direction de la ville qui a négocié avec le syndicat d'École bleue.
Est-ce que c'était dur, cet épisode-là, de la grève d'École bleue? Parce mm-hmm. que, tu sais, vous avez un passé syndical, vous?
Oui.
Vous, personnellement?
Tout à fait.
Si vous n'étiez pas maire aujourd'hui, vous seriez encore au centre de service scolaire, vous seriez en grève, là.
Oui, tout à fait.
Je ne pense pas que vous éviteriez d'aller piqueter, puis
non,
de vous...
je serais dans la rue.
Vous seriez dans la rue, vous feriez
descendons partie dans la rue.
La mobilisation, oui, c'est ça. Votre père est un,
oui.
est un ancien dirigeant syndical aussi. Alors, ça c'était dur là, de jouer le rôle cette fois-ci d'employeur, là, puis de devoir mettre votre pied à terre, puis...
Mais c'est difficile au niveau... C'est toujours difficile au niveau relationnel, parce qu'évidemment, c'est un conflit, donc c'est difficile au niveau relationnel. Mais en même temps, c'est le rôle et c'est la raison pour laquelle les gens m'ont élu, c'est de maintenir mon rôle dans les intérêts de la ville. Alors, c'est sûr que pour moi, j'étais ancré là-dedans. Donc, c'est important de maintenir son rôle, c'est important d'avoir intérêt à cœur les finances de la ville, de voir comment se déploie le niveau d'employabilité de la ville et des conditions de travail.
Reconstruire les ponts avec les autres municipalités et l'ensemble des acteurs du territoire, c'est une autre motivation que vous oui. portiez. Parlons d'abord des autres municipalités, là, puis de la MRC. Est-ce que vous avez le sentiment que ces missions accomplies, que les ponts sont reconstruits avec la MRC puis les autres municipalités?
Bien, je pense que oui. Je pense que mes collègues pourront vous dire que oui. Il y a un beau travail, une belle synergie, une belle orientation au niveau de la MRC. J'ai beaucoup de plaisir avec mes collègues. On discute de plein de nouveaux projets. On discute de développement économique. Donc, je pense que la relation est bonne. Puis je pense qu'on est capable d'arriver à des consensus. Puis on est en processus budgétaire. Ça fonctionne très bien présentement.
Sont-ils reconstruits des ponts avec les acteurs du territoire? D'ailleurs, avec quels acteurs du territoire étaient-ils rompus les ponts à la fin du règne de votre prédécesseur? Bien, et sont-ils aujourd'hui reconstruits?
Bien, je peux vous dire que les ponts sont tout à fait reconstruits. Quand on parle de développement économique... Là,
mais avec qui ça marchait plus, là,
bien,
avant que vous arriviez?
Il n'y avait aucune discussion avec le CTTEI. Le CTTEI, là, c'est un joyau québécois. C'est un joyau de la région, là. Ils ont une reconnaissance partout au Québec. Ils ont travaillé dans 25 symbioses industrielles partout au Québec et devinez le seul endroit où il n'y avait aucune symbiose industrielle chez eux, cordonnier mal chaussé. Donc, rétablir les ponts...
Ça, c'est le centre de transfert,
oui, centre de transfert
en écologie industrielle.
Ouais, okay. Donc, d'avoir un joyau comme ça sur notre territoire, il faut discuter avec eux. Et c'est une des premières choses qu'on a fait. Rétablir les ponts avec la Société des parcs industriels Sorel-Tracy qui travaillait en parallèle avec l'hôtel de ville qui travaillait, en fait, avec la mairie qui travaillait sur des sujets. Les gens ne discutaient pas ensemble. Rétablir les ponts avec développement économique Pierre de Sorel, c'est-à-dire que le développement économique doit passer par développement économique Pierre de Sorel et nous, on est partenaires de ça. Donc, on travaille avec le développement, pas en parallèle. C'est en travaillant ensemble qu'on réussit à accomplir des choses. Puis ensemble, on est toujours plus fort. Donc, de rétablir les ponts avec des acteurs, puis c'est quelques... Il y a des organismes aussi avec lesquels il fallait travailler. Il n'y avait aucune discussion. On parlait d'itinérance. L'itinérance était un sujet très chaud, là, justement. Il n'y avait aucune discussion avec la Porte du Passant. La Porte du Passant, c'est eux qui accueillent nos gens qui sont sans toit là, pendant les nuits. Il n'y avait aucune discussion avec eux. C'est de rétablir les ponts avec les organismes, travailler ensemble, avoir une cohérence d'action, travailler en équipe, tisser un filet tant social qu'économique, cohérent, fort pour le développement de notre région. Être maire, c'est pas être assis dans son bureau.
Okay. Agir pour la qualité de vie des gens d'ici, ça vous motivait beaucoup. Qu'est-ce qui va dans cette direction-là, dans les décisions que vous avez prises? Agir pour la qualité de vie.
La qualité de vie, c'est de vivre dans un milieu qui est agréable, qu'on est fier, qu'on trouve beau. Et la qualité de vie, c'est sûr et certain que ça va passer par l'action sociale. On en a parlé tout à l'heure avec le logement, mais c'est aussi par l'environnement. C'est aussi par l'environnement. C'est de créer des endroits qui sont beaux, qui sont agréables. Le centre-ville, les travaux au centre-ville, là, je sais que ça crée beaucoup de désagréments. Puis je peux comprendre, là, tous ceux qui vivent dans les travaux depuis bientôt 20 semaines. Je peux comprendre ça, mais ça va être beau. Ça va être agréable d'aller se promener au centre-ville. Ça va être vert, il va y avoir de l'ombre, va faire moins chaud. Les terrasses vont être plus grandes. Les gens vont se réapproprier le centre-ville. Puis le centre-ville, c'est aussi les nuisances, les poussières de Richardson. Depuis que je suis en poste, on a rétabli la communication avec Richardson. C'est une des premières choses aussi qu'on a fait dès février. Avec le siège social de Richardson, on a eu un des présidents qui est venu ici dans la région. On a mis
l'expression consacrée, ce serait de dire ces liens ont permis à la poussière de retomber. Mais,
Cette semaine, on a un comité de voisinage de Richardson, puis ils nous ont annoncé qu'au printemps, les épisodes de poussière devraient être passablement atténués, peut-être même chose du passé. Ça, c'est du travail, puis on a mis de la pression sur Richardson pour que ça se fasse. Puis Richardson a compris qu'il y avait un rôle à jouer dans notre société, puis que ça fait partie de la qualité de vie des gens qui habitent le centre-ville, c'est de pouvoir respirer un air qui est sain.
Votre ville, celle de Saint-Joseph-de-Sorel, puis la direction de la santé publique de Montérégie, vous avez mis en place un comité stratégique sur cette question-là. Des stations d'échantillonnage ont été installées au printemps dernier, près des installations de Richardson pour prendre de nouvelles mesures. C'est bien long avant que les données soient communiquées. Les connaissez-vous, vous? Non. Vous êtes dans l'ignorance comme nous autres. Qu'est-ce qui brette comme ça?
Les données, l'équipe du ministère de l'Environnement ont recueilli les données, mais ça a été interrompu parce qu'il y a eu les feux de forêt au Québec. Donc, les instruments ont été réquisitionnés pour aller justement vérifier l'air des villes plus au nord. Mais il y a quand même eu assez de données, mais ces données-là sont brutes. Alors, il faut qu'ils recueillent les données, qu'ils les emmagasinent, qu'ils les envoient ensuite à la santé publique, qui, eux, vont analyser quels sont les impacts à partir des données brutes. On a eu une rencontre justement de ce comité-là la semaine dernière. On est en attente, là, les analyses devraient sortir bientôt, parce que moi aussi, j'étais impatient à propos de ces analyses-là.
Vous comptiez équiper la ville, vous avez dit ça pendant la campagne électorale aussi, d'une technologie permettant l'analyse en continu de la qualité de l'air.
Je voulais
dans vos plans?
Ben, je voulais faire ça, puis on a demandé au ministère de l'Environnement. Puis on nous a dit que ça prend beaucoup trop d'expertise pour ça, puis dans le fond, le ministère de l'Environnement va venir aux besoins.
Mm-hmm. On peut trouver des choses que le ministère ne veut pas qu'on trouve.
Ils ont une obligation de transparence. La santé publique nous l'a clairement dit. Là. Tout le monde, dès qu'ils ont des données, il faut absolument qu'ils les transmettent à la population. Donc,
C'est juste que c'est long avant qu'ils les aient.
C'est ça. Il faut être patient. Ouais. J'étais peut-être impatient en campagne électorale. Je voulais que ça se règle. Mais au moins, on va avoir les vrais chiffres, les vraies données analysées par des experts.
Parfait. Alors, on s'interrompt de nouveau. Je lance l'appel, là, encore une fois. Que vous placiez les vôtres, vos appels téléphoniques, 450-743-2772, 450-780-0101. À tantôt.
Meubles André-Beaulieu fête ses 50 ans. Pour l'occasion, vous êtes invité à participer au concours de notre famille à la vôtre. Vous pourriez gagner un repas pour 8 personnes au restaurant Le Fougas, une valeur de 750 $. Participez jusqu'au 29 novembre en remplissant le formulaire en ligne à meublesbeaulieu.ca. De notre famille à la vôtre pour célébrer les 50 ans de Meubles André-Beaulieu.
Avec Denis Marion, tous les jeudis midi, tête première.
Ici Denis Marion. Plongez avec moi dans l'actualité, avec les gens qui la font, mais aussi avec celles et ceux qui l'observent et qui l'analysent, pour débattre, pour échanger et pour apprendre. Faisons-le ensemble chaque semaine, le jeudi midi, à CJSO 101.7.
Tête première, l'émission où des débats font avancer les choses.
Denis Marion parle des vrais sujets et pose les bonnes questions. Tête première, tous les jeudis midi à CJSO.
Bonjour, ici Marjorie Bourassa, propriétaire du Saint-Pierre Sport. Vendredi le 24 et samedi le 25 novembre, venez tourner la roue chanceuse chez Saint-Pierre Sport pour notre grande vente du Vendredi fou. Gagnez instantanément un rabais entre 10 et 40% sur nos vêtements et accessoires mode de nos collections 2023. De plus, toutes les collections antérieures sont en rabais. C'est la fête au Saint-Pierre Sport. Venez célébrer avec nous les aubaines. Ambiance festive et surprises sont au rendez-vous.
Marc Dupré a testé le GMC Sierra 1500 Graphite 2023 à cabine multiplace.
Le mois de novembre, ça rime avec grisaille, averse et météo ordinaire. Finalement, ça rime pas bien, bien. Mais si tu roules avec le GMC Sierra 1500 Graphite, t'es tellement confo, c'est comme si t'oubliais le temps gris, la pluie puis les intempéries. Puis en plus, ça rime en crime.
Beau temps, mauvais temps, venez essayer le GMC Sierra 1500 2023 chez votre concessionnaire GMC. Les membres de Costco admissibles obtiennent une prime de 750 $. Les conditions s'appliquent. Détails à offregmc.ca.
Déjouez le froid et le gris de l'automne avec un bronzage parfait et uniforme grâce au salon de bronzage Tracy. Profitez du soleil de nos cabines pour prolonger votre bronzage. Venez faire le plein d'énergie et de lumière au salon de bronzage Tracy, 905 route Marie-Victorin.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Et que ça va vite, 10 minutes. Je vais vous amener des sujets en cascade. Bon, le centre-ville, vous l'avez parlé rapidement. Mm-hmm. Vous dites que ça va améliorer la qualité de vie des gens. Vous avez mis ça dans le rayon, oui. Qualité de vie. Est-ce que vous êtes encore persuadé qu'on va finir avant que la neige s'installe?
C'est serré. On annonce la neige, je pense, demain. Ouais. Mais si tout va bien, parce que les entrepreneurs, quand même, sont capables d'opérer là, malgré la neige. Nous, c'est mi-décembre. C'était ça qu'on avait comme objectif. En tout cas, ça travaille. Là. C'est sans relâche. Il y a même des gens qui sont venus travailler en fin de semaine.
Qualité de vie, là, genre dans un débat qui est interminable. Mais ouais. Je peux pas le dire parce qu'il y en a qui vont dire « Il n'en a même pas parlé ». La disparition des places de stationnement dans cette opération-là, ça continue de vous laisser assez froid. Ça pas l'air de vous ébranler, ça.
On a fait l'inventaire des stationnements au centre-ville. Il y en a énormément, au-dessus de 1000, là, en incluant les stationnements sur rue disponibles. Ce que je comprends, c'est que c'est pas une crise du stationnement, c'est une crise des habitudes. Dans le fond, les gens qui sont habitués d'aller se stationner sur Augusta et Prince, qui se stationnaient, c'est sûr que ça dérange. C'est sûr que on était habitués de pouvoir se stationner en avant de notre commerce. Mais dans tous les centres-villes du Québec qui ont été rénovés, on a diminué l'espace de centre-ville pour laisser plus d'espace à la vie. On augmente les terrasses. Manger sur une terrasse à côté d'une voiture stationnée, c'est pas agréable. Donc, c'est ce qui...
Dans Pouchère, ça n'allait pas le dire, mais vous dites qu'elle aura pu s'éteindre.
Effectivement aussi.
Ah, ben j'ai hâte de voir ça.
On travaille sur tous les axes. Les stationnements, on va quand même travailler parce qu'on est sensible à ça. Ça veut dire que si les gens ne voient pas les espaces de stationnement, c'est peut-être qu'il y a un travail à faire pour faire, en fait, diriger les gens vers les stationnements. On va travailler là-dessus.
OK. On achève de refaire Augustin et Prince. Mmh. Est-ce qu'il est prévu que ce soit autour de Georges et du Roi dans les prochaines années ou c'est pas prévu? Il y a les infrastructures souterraines, mais c'est surtout à l'uniformité de tout ça que je pense.
On y réfléchit, les travaux qui... C'est dans notre plan là, pour aller vers ça, parce qu'évidemment, on voudrait un centre-ville complètement rénové. Là. Mais les dates, j'ai pas exactement toutes les dates pour ça, mais ça fait partie du plan qu'on a adopté, le PPU, le plan particulier d'urbanisme de la ville. Une vision pour notre centre-ville qui va être accueillant, où il fait bon vivre, il fait bon aller se divertir et consommer et acheter des choses.
OK. Il y a énormément de travaux de génie civil. Tracy, c'est un véritable labyrinthe pour les automobilistes. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est parce qu'on avait bien du retard à rattraper?
Si on m'avait posé la question à propos des routes, en fait, le débat il y a 2-3 ans, je m'en souviens très bien, je suis au conseil de ville, c'était les routes qui étaient en état délabré complètement. Là, présentement, on est dans la deuxième phase, c'est les routes qui sont en construction. Fait que la troisième phase, ça va être les routes qui vont bien. J'ose pas. Mais une des choses là-dedans, c'est que le ministère des Transports, quand même, a changé un peu son approche, puis ça nous a permis d'avoir un bureau du ministère des Transports. Si on a ramené le ministère des Transports, je salue Jean-Bernard Raymond pour son travail là-dessus, qui a fait en sorte que notre bureau est réouvert ici. Ça change beaucoup de choses d'avoir des gens sur le terrain.
Vous trouvez que ça paraît, vous?
Oui, ça paraît, parce qu'il y a des interventions plus rapides.
Ouais.
Puis, oui, justement, puis il y a une... En fait, le fait qu'on n'en parle pas fait que ça va bien.
OK. Je suis pas sûr qu'on a le même point de vue sur la question, parce que moi, je me souviens d'un pont sur quatre réputé fermé à 8h30 matin, puis il l'a été à 9h30. Personne n'a avisé les médias de ça. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, les autres.
Mais il y a l'équipe locale, puis il y a l'équipe des plus grands travaux du ministère.
Ah, okay.
Elle doit être en Europe.
Ça, c'est d'autres. OK, elle doit être en Europe. Parlons des Jeux du Québec. Vous avez la volonté d'accueillir ces Jeux-là à l'été 2027. C'est ambitieux ou téméraire, ce projet-là? On a les infrastructures, on va les avoir. C'est beaucoup de monde. 3300 athlètes, 18 disciplines, 9 jours de compétition, des dizaines de milliers de spectateurs.
Ted Fernandes a accueilli deux fois les Jeux dans les dernières années. Ted Fernandes, c'est plus petit que Sorel-Tracy. On a les infrastructures pour le faire. La prochaine étape, c'est à mi-janvier, c'est de déposer un devis technique pour démontrer aux fédérations, regarder nos installations, ce qu'on a, ce que c'est conforme à ce que vous avez besoin. Là, on va le savoir. Là, dans le fond, on a une intention. On va savoir si on a les infrastructures pour le faire, quelles seront celles sur lesquelles on devra mettre un peu d'amour. Et ensuite, on va voir pour la marcheuse. Mais j'ai pas de crainte. La ville de Sorel-Tracy est capable d'accueillir des événements d'envergure.
Mais est-ce qu'on
a les infrastructures pour ça?
Est-ce que ça va coûter plus de bidou que rapporter d'argent? Vous connaissez l'expression bidou?
Ben oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Bon. Oui, le budget, c'est environ 7-8 millions, si je me rappelle bien, des Jeux du Québec. On a une enveloppe de financement qui est à 5 millions. Oui, ça coûte, mais ces jeux-là, les dépenses, c'est des investissements sur nos infrastructures. Ces choses-là vont rester après, ce qui va permettre aux jeunes d'aller faire du sport dans nos infrastructures. Et quand on investit dans le sport, dans la jeunesse, on n'est jamais perdant.
Votre croisade, pour ne pas dire croisière, pour faire revivre la construction navale à Sorel-Tracy. Parlez-moi d'elle puis de votre degré de confiance qui a l'air très élevé, M. Pinoquet.
Il est très élevé. Il est très élevé parce qu'on sait qu'on est dans un bon créneau. Quand on veut faire du développement économique, qu'est-ce qui nous différencie des autres régions? Bien, nous, là, Sorel-Tracy, là, ce qui nous différencie des autres régions, c'est qu'on est une ville maritime. On est sur le bord de l'eau. À Saint-Hyacinthe, il n'y aura pas de développement d'industrie navale, puis il n'y en aura pas non plus à Drummondville. Puis il n'y en aura pas à Granby non plus. Fait que c'est chez nous qu'on va faire de l'industrie navale, parce qu'on a des infrastructures. Marine Industrie nous a laissé un legs majestueux. Ce legs-là, géré en partie par la Société des parcs industriels de Sorel-Tracy, fait en sorte c'est un facteur d'attractivité d'entreprise. On a fait, je peux vous dire, je suis sur le terrain, là. Je l'ai visité, je pense, à peu près 10 fois, ce parc-là, avec des gens qui sont venus visiter la région. Puis à chaque fois, les gens sont impressionnés. Ils ne se doutaient pas qu'il y avait ces infrastructures-là, parce que ça fait 40 ans qu'on a laissé ces infrastructures-là, puis on a arrêté de parler de construction navale à Sorel-Tracy. Mais de la construction navale, il en existe encore. Des bateaux s'en construisent partout. Et là, présentement, ce qu'on observe, la stratégie fédérale de construction navale fait qu'on veut rapatrier au Canada la construction de navires. Ça, c'est une manne. Et cette manne-là, Sorel-Tracy, il faut en faire partie, il faut faire valoir nos choses, puis on a fait toutes les représentations. Puis quand je dis « on », c'est travail d'équipe avec David Place, de Développement économique Pierre de Sorel, Nancy Annie Léveillé, la Société des parcs industriels de Sorel-Tracy, la Ville de Sorel-Tracy, toute notre équipe, avec la Direction générale, Direction des communications, Dominique Brassard, Carlo Fleury, tout le monde, la MRC avec le préfet, Sylvain Dupuis. On était sur le terrain, on a vendu la région, puis les gens étaient très impressionnés par notre dynamisme, parce qu'on parlait d'une voix unie, ensemble, on vantait la région. Il y avait également avec nous à Lévis Mario Fortin et Mathieu Beaufort du chantier d'attraction de la main-d'œuvre, une initiative unique au Québec. Je vous le dis, on est mobilisés et ça va fonctionner. Puis Groupe Océan, justement, c'est le premier jalon de tout ça.
On fête votre premier anniversaire à la mairie, mais l'échéance de votre mandat viendra pas dans 3 ans, comme si vous aviez été élu dans le cadre d'une générale, mais dans 2 ans, en novembre 2025. Est-ce que ça vous demande de travailler en accéléré? Parce que j'imagine que vous voudrez être du rendez-vous de 2025 et vous voudrez y être avec un beau mandat. Alors, ça vous demande-tu de travailler en accéléré?
On travaille en accéléré parce que les projets pleuvent. C'est pas moi qui paye sur l'accélérateur, c'est que les projets avancent parce que justement cette unité-là, cette effervescence-là qu'on voit, le travail d'équipe, la nouvelle culture et les opportunités, le positionnement qu'on prend fait en sorte que la ville avance à vitesse grand V. Jeudi passé, on est allé voir Investissement Québec. On a fait une présentation régionale devant plus de 40 conseillers économiques d'Investissement Québec. On a montré qu'à Sorel-Tracy, là, dans la région de Sorel-Tracy, là, l'agroalimentaire, la métallurgie, l'écologie industrielle, la revalorisation des matières recyclées avec le CTTEI et la construction navale, on est ouvert à ça. Et ils ne savaient même pas. On était complètement sous choc. Les gens d'Investissement Québec ne savaient même pas qu'on avait des terrains disponibles ici industriels. Il n'y a pas eu de représentation de la région auprès des instances gouvernementales depuis 20 ans. Il était temps qu'on le fasse.
On arrive à, avec la saison des budgets municipaux. Est-ce que ça va rimer à Sorel-Tracy avec augmentation de taxes? Dernière question.
Bien, c'est sûr que dans le scénario, puis j'en discute avec tous les collègues à l'UMQ, dans la région aussi, à la MRC, c'est sûr et certain que l'inflation a un impact sur les finances municipales. C'est sûr et certain que les coûts ont augmenté. Ce qui fait en sorte qu'il faut s'attendre quand même à une hausse. Mais à Sorel-Tracy, on est chanceux. Nos finances sont bien gérées. Et je pense qu'on va être capable d'avoir un budget qui va se rapprocher. Ça ne sera pas un équilibre budgétaire. On ne sera pas à zéro, là. C'est sûr qu'il va y avoir une augmentation. Mais l'augmentation devrait être moins élevée que dans d'autres villes du Québec.
Moins élevée que le coût de la vie.
Oui, tout à fait.
OK. Ben, merci beaucoup, Patrick Péloquin, d'avoir accepté mon invitation. Merci à ceux et celles qui ont participé à la tribune téléphonique. On vous donnera rendez-vous pour votre deuxième anniversaire. Oui. On fera le bilan de votre mandat après ça.
C'est ça.
Ben, merci, Patrick Péloquin.
Merci.
Merci à Laurent Cournoyer au standard téléphonique. La semaine prochaine, à cette émission, La Guignolée. Alors, bonne semaine, tout le monde.